RFI, grand reportage.
Je ne me bats pas que pour moi, je me bats pour toute la communauté. Je ne veux pas laisser mes voisins mourir sans me battre. Si on se bat et qu'on perd, au moins on aura essayé.
On la surnomme l'allée du cancer. Un corridor industriel qui dégage des émissions toxiques dans une zone essentiellement peuplée d'Afro-Américains. Sur place, plus de 140 usines pétrochimiques installées depuis plusieurs décennies le long du Mississippi, entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans au sud de la Louisiane. Les Nations Unies se sont inquiétées début mars de l'implantation annoncée de plusieurs nouvelles usines dans cette atmosphère déjà extrêmement polluée et ont dénoncé une forme de racisme environnemental. L'allée du cancer en Louisiane, les Afro-Américains victimes de l'industrie, c'est un grand reportage d'Anne Corpet.
Vous voyez tous ces signes sur la route ? Formosa serait une peine de mort pour St. James. Ce sera la pire des usines. Il y aura 14 unités dans ce gros complexe. On ne peut déjà plus respirer et ils vont tripler les émissions toxiques dans le district.
Sharon Lavigne nous emmène sur les routes de sa commune où trois usines doivent être construites, dont celle de Formosa, une usine de plastique. La localité paye déjà un lourd tribut à l'industrie.
On est sur Burden Lane. Il y a des usines des deux côtés de la rue. Mon amie Géraldine vivait ici. Géraldine est morte. Cette femme là-bas a un cancer. Sa fille aussi a un cancer. La dame là-bas a eu les deux jambes amputées. Croyez-moi, personne n'est en bonne santé.
Le téléphone de Sharon sonne constamment. Elle dirige l'association Rise St. James, qui tente de se battre contre l'arrivée de ces nouvelles usines. Sharon Lavigne ne reconnaît plus la commune où elle a grandi.
Quand j'ai grandi à St. James, il n'y avait aucune usine et il y avait surtout des champs de canne à sucre. L'air était pur, l'eau était propre, les jardins poussaient. On n'était jamais malade. La première usine est arrivée dans les années 60. On ne savait pas que les industries auraient cet impact si important sur notre santé. On ne savait pas. Quand les usines sont arrivées, les gens trouvaient cela formidable. Donc pendant toutes ces années, on a bu de l'eau sale, sans savoir que les industries versaient des produits chimiques dedans, comme du benzène. Tant de gens ne savent pas pourquoi ils ont eu un cancer, pourquoi leurs proches sont morts du cancer. Ils ne savaient pas que les industries causaient toutes nos maladies. On appelle ça l'allée du cancer. Nous, on l'appelle l'allée de la mort, parce que nous vivons dans le couloir de la mort. Nous attendons juste notre tour de mourir.
We call it death alley, because we live on death row. We just wait our turn to die.
Hello, thank you.
That's all right.
L'allée du cancer, une appellation inventée par Daryl Malek Willey, un militant écologiste de la région. Nous le rencontrons dans son bureau de l'association Sierra Club à la Nouvelle-Orléans. Avec le recul, il trouve aussi le terme un peu trop restrictif.
Nous avons trouvé cette appellation en 1985 ou 1986. Nous voici en 2021 et les gens font toujours face aux mêmes conséquences. Ils souffrent de cancer, de maladies respiratoires, de diabète. Les communautés qui vivent le long du Mississippi sont exposées à 20 produits chimiques différents dans l'air, 15 dans l'eau et d'autres sont dans le sol qu'elles cultivent. Donc on ne peut pas se contenter de parler de cancer. Certains de ces produits chimiques traversent le placenta et provoquent des malformations congénitales ou des fausses couches. Donc il y a toute une série d'impacts sur la santé, autres que le cancer, qui sont causés par ces usines pétrochimiques.
Wilma Soubra, chimiste, collecte depuis des années des données sur les émissions de produits toxiques dans ce couloir industriel. Elle s'intéresse notamment aux émissions de chloroprène, une substance dangereuse dégagée par l'entreprise japonaise Denka qui fabrique du néoprène avec lequel on fait par exemple des combinaisons de plongée.
Selon l'évaluation nationale de la toxicité dans l'air, le chloroprène est probablement cancérigène et le niveau à risque dans l'air ambiant, celui que nous respirons, est de 0,2 microgrammes par mètre cube. Tout ce secteur dépasse ce seuil de 0,2. Il est donc inacceptable que les gens vivent dans ce genre de conditions. Laissez-moi vous montrer.
Wilma va chercher de la documentation dans une des piles de papiers qui s'entassent dans son bureau.
So this is DuPont.
Donc, voilà l'usine. Et là, c'est l'école. On y atteint un niveau de 49,1 microgrammes, presque 50. Et le standard est de 0,2. Il s'agit là de prélèvements faits par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, en 2017. Et donc, si vous vivez près de la voie ferrée, le niveau était de 67,4, soit 337 fois 0,2. Et ce qui s'est passé, c'est que Denka a demandé à l'EPA de changer ce seuil de 0,2. Et pendant ce temps, la population vit toujours là, vraiment très exposée.
Meanwhile, people are still living there, really heavily exposed.
La pollution qui émane de cette usine est ancienne, avant que les Japonais de Denka s'installent en 2015, année où l'Agence de protection de l'environnement a commencé ses prélèvements. C'était l'entreprise DuPont qui occupait le site. Leslie Schechneiter habite juste à côté.
DuPont built and was opening up in 1964.
DuPont a construit et ouvert son usine en 1964. DuPont a pollué pendant plus de 55 ans. Mon père est mort d'un cancer des poumons il y a 15 ans. Ma mère a eu le cancer 3 fois. Mon père avait un jardin, il avait des arbres fruitiers, et au cours de toutes ces années, DuPont a tué tout ça. On ne pouvait même plus planter les mauvaises herbes. DuPont relâchait des polluants entre 2h et 5h du matin. L'odeur était partout. Tout virait au noir. Mes arbres fruitiers ont tourné noir. Et on a appelé, on en a parlé, on s'est plaint, mais rien n'a été fait.
Excuse me, ma'am. Hi, excuse me. I'm a French reporter.
Yeah. Willie Mee, une dame qui ne veut pas dire son âge, rentre chez elle à petits pas. Elle vit sur la 31e rue, celle qui longe les grillages de l'usine Denka.
Je sais qu'il s'en passe des choses là-bas. C'est mauvais pour la santé. Mon fils travaillait dans cette usine et il en est mort il y a 5 ans. Il a eu le cancer. Il a travaillé là-bas longtemps.
Quel âge il avait?
Il avait 45 ans. Et il est mort du cancer.
Et vous pensez qu'il est mort du cancer parce qu'il travaillait dans cette usine?
Il a travaillé un bon moment là-bas et il était en bonne santé. C'est tout ce que je peux dire. Il était en bonne santé. Et soudainement, il s'est senti mal et on a diagnostiqué un cancer généralisé. Son nez s'est mis à saigner. Il pensait que ça allait passer, mais non.
On longe le Mississippi. Il y a une poussière rouge qui est partout sur plusieurs centaines de mètres. C'est vraiment un défilé continu de sites industriels. C'est la présence du fleuve, voie d'accès royale au golfe du Mexique. Et des matières premières comme le sel, le pétrole brut, le gaz naturel qui ont attiré les industries entre la Nouvelle-Orléans et Baton Rouge où nous nous rendons pour rencontrer Craig Colton. Il est professeur de géographie et d'anthropologie à l'université et il a fait des recherches sur l'industrialisation de la Louisiane.
La plupart des terres le long du fleuve appartenaient à des propriétaires privés de plantations de canne à sucre. Après la guerre civile, bien sûr, la plupart des esclaves ont été libérés, mais beaucoup d'entre eux sont restés dans la région. Et donc ensuite, quand la plantation vendait ses terres à une raffinerie, celle-ci s'implantait juste à côté de ces petites communautés qui subsistent le long des clôtures des grandes industries.
Est-ce qu'on se préoccupait de la santé ou de la présence de ces gens à côté des usines ?
Eh bien, si vous lisez la littérature sur la façon de sélectionner en toute sécurité un site pour construire une usine, toute cette littérature des années 20 et 30 dit « Faites attention, n'allez pas la construire trop près des gens parce que vous allez avoir des procès. Ils ne vont pas aimer la fumée, ils ne vont pas aimer les odeurs. » Mais ici, dans le sud de la Louisiane, ce genre de conseil a été ignoré parce qu'ils ne voyaient pas vraiment ces gens. Ils étaient là, mais parce qu'ils étaient noirs, ils étaient invisibles aux yeux des propriétaires d'usines.
Joe Bonheur descend d'une famille noire implantée le long du Mississippi au XVIIIe siècle. Elle tient un petit café le long de la route, juste devant la digue qui isole le fleuve.
La région est importante sur le plan historique. Nous avons besoin d'avoir accès à ces terres et ne pas être sous le joug de l'industrie pétrochimique. Les Afro-Américains, en particulier nous, les descendants des plantations, nous essayons de préserver l'histoire ici, de la protéger. Donc oui, c'est vraiment triste parce qu'ils achètent des terres sacrées, nos cimetières et rendent ensuite malades les descendants d'esclaves. Certains parlent de réparation pour les descendants d'esclaves, pour tout ce travail qui n'a jamais été payé. Est-ce que cela ne serait pas juste de s'assurer que les descendants d'esclaves soient en bonne santé ? Ce serait déjà un début. Cessez de nous empoisonner, laissez-nous juste survivre, avoir de l'air pur.
Le 27 janvier, Joe Biden, en signant un décret présidentiel sur le climat, a évoqué le sort des habitants de l'allée du cancer. Cela a touché Joe Bonheur.
La première fois qu'il a mentionné l'allée du cancer, cela m'a secoué, parce que c'est une chose d'en discuter au niveau local, mais de l'entendre en parler avec l'audience internationale dont il bénéficie, cela indique qu'il surveille ce qui se passe, qu'il y fait attention, et cela me donne de l'espoir.
Mais juste après, le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, a joint la presse locale. Tristan Boric, journaliste à The Advocate, nous a transmis l'enregistrement des propos de l'élu républicain.
En Louisiane, nous avons un plus fort taux de cancer que dans d'autres États. Nous avons plus de fumeurs de cigarettes, d'obèses, de certaines infections virales et d'autres facteurs qui accroissent le taux de cancer dans notre État. Donc quand vous parlez de l'allée du cancer et que vous supposez que c'est lié aux produits chimiques, il faut intégrer ces facteurs que je viens d'évoquer, qui pourraient être une alternative, une explication plus typique de la raison pour laquelle ces gens ont le cancer. Donc je ne vais pas accepter cette forme de claque contre notre État. Cela ressemble à de la grande rhétorique, mais je le répète, je n'accepte pas cette claque.
Et dans la foulée, l'Association chimique de Louisiane, un lobby de l'industrie dans l'État, a sorti un spot publicitaire dans lequel elle se présente comme soucieuse de l'environnement. L'industrie et le sénateur républicain peuvent affirmer ce qu'ils veulent. Si les hauts risques de cancer ne font pas discussion dans le corridor pétrochimique, il n'y a pas de données précises sur l'état de santé de ses habitants. Vicky Booth, épidémiologiste, s'est installée à la Nouvelle-Orléans pour sa retraite.
Depuis 40 ans, ce corridor est appelé l'allée du cancer. Il n'y a jamais eu d'étude épidémiologique de haute qualité qui ait examiné le large éventail de conséquences sur la santé auxquelles on pourrait s'attendre vu les produits toxiques et les particules répandues dans l'air. Le directeur du département de la qualité de l'environnement de Louisiane a traité les résidents de la commune de Saint-John de menteurs et de marchands de peur, lors d'une réunion publique. Un de mes anciens collègues occupe un poste de direction au département de la santé publique de Tulane, une université très respectée, et ils n'étudient pas l'allée du cancer. Ils ne font rien. Ils ont tous peur de perdre leur financement à l'université. Ils ont été intimidés. Aucune des universités ici n'a un département d'épidémiologie environnementale sérieux ou ne fait d'études sur Cancer Alley.
L'allée du cancer est une décision politique.
Wilma Soubra, chimiste qui étudie l'allée du cancer depuis des décennies.
Les industries sont venues parce que les politiciens les ont invités ou encouragés à s'installer ici. L'État les encourage à venir. Elles ont été accueillies pour empoisonner la communauté. Au niveau de l'État, nous avons toutes ces ressources financières associées pour les aider à construire leur infrastructure. Donc, l'argent que l'État leur offre est vraiment un incitatif, en plus des grands terrains et des ressources naturelles dont l'industrie a besoin.
Dans cet État, il y a une mentalité politique selon laquelle tout ce qui nuit au profit de l'industrie nuit à la population, et selon laquelle les garde-fous de santé publique coûtent trop cher.
Andrew Jacoby, avocat spécialiste de l'environnement à la Nouvelle-Orléans.
L'organisme de surveillance de l'État, le département de la qualité environnementale, est terriblement sous-financé. Nous allons donc souvent au Parlement pour tenter de changer les lois ou trouver des moyens de protéger la population avec des solutions qui semblent raisonnables et que personne ne pourrait refuser. Mais la législature nous dit toujours non. Mais quand l'industrie fait des suggestions, même les plus grotesques, le gouvernement ne leur dit jamais non. C'est comme s'ils avaient un gros tampon vert qui dit oui à l'industrie et un gros tampon rouge qui dit non aux communautés. Et il y a parfois un sentiment de résignation dans les communautés où les gens perdent le goût de se battre parce qu'ils ont l'impression que leurs intérêts ne seront jamais protégés. Where people lose the will to fight because they feel as though their interests will never be protected.
You don't hear too much about it no more. You don't hear too much until you hear a funeral going on, somebody died. You don't really hear nothing until somebody died and then you hear they died from cancer. That's it.
De fait, dans la 31e rue de Saint John Parish qui borde l'usine d'Enka, les quelques hommes qui discutent se sentent impuissants, comme Carl Selders.
J'ai peur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent pour déménager. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme ça. Je ne peux pas me battre contre eux parce que je n'ai pas d'argent. C'est mauvais pour notre santé, on le sait, mais on n'a pas d'argent pour partir. Et donc, ils nous tuent sans contrepartie. Je ne peux pas me battre contre ces gens. Ils ont des milliards de dollars. J'en ai quelques milliers, mais je ne peux pas me battre contre des milliards. Je ne peux pas.
Mais Sharon Lavigne, elle, est bien décidée à lutter de toutes ses forces pour empêcher l'implantation de nouvelles usines dans sa localité.
Je ne me bats pas que pour moi, je me bats pour toute la communauté. Je ne veux pas laisser mes voisins mourir sans me battre. Si on se bat et qu'on perd, au moins on aura essayé. Mais on ne va pas se coucher et leur dire « prenez nos terres ». Non, ça ne se passera pas comme ça.
Victory is mine, victory today is mine. I told Formosa to get thee behind. Victory today is mine.
Et Sharon entonne le chant qu'elle a écrit après qu'un juge fédéral a retoqué le premier permis de construire de Formosa, l'usine de plastique qui a acheté près de 1000 hectares près de sa maison, un chant de victoire, même si Formosa est loin d'avoir déposé les armes.
Formosa is not coming, trust me. I know Formosa is not coming. I'm 100% sure. Victory is mine.
L'allée du cancer en Louisiane, les Afro-Américains victimes de l'industrie, un grand reportage d'Anne Corpet, réalisation Eva Piedel.
Victory today is mine. Joy is mine. Joy is mine. Joy today is mine. I told Formosa to get thee behind. Joy today is mine.